Charles-François Matisse va intervenir aujourd'hui autour de la question « Quelle nature dans les villes en France depuis le XIXe siècle ?»
Bonjour à tous. Alors, une toute petite précision, la civilisation du charbon, il n'a pas été coécrit, c'est juste moi qui l'ai écrit. Geneviève Massard-Guilbault était ma garante d'habilitation, c'est probablement pour ça. Et comme le livre est issu de mon habilitation, c'est d'où peut-être votre confusion. Non, mais c'est pas bien grave. Merci beaucoup à Patrick Matagne et à Gisèle Séginger de m'inviter à cette journée d'études très intéressante qui me permet donc de vous parler de la nature dans les villes en France depuis le 19e siècle, en m'appuyant sur l'ouvrage que j'ai écrit avec Emilie-Anne Pépi, intitulé « La ville végétale, une histoire de la nature en milieu urbain depuis le 17e siècle », et dont je vais vous présenter donc quelques aspects ici à propos de cette question donc de la nature dans les villes. Et je voudrais commencer par ce que je fais assez souvent, en fait, parce que je trouve que c'est très parlant, un plan de la ville de Paris, ici, de 1830, qui permet de voir deux choses. La première, c'est la difficulté à définir ce qu'est une ville, en fait, du fait de la porosité des limites de la ville, qui se met en place particulièrement, justement, à partir du tournant 18e, 19e siècle. On voit ici cette porosité entre ville et campagne, où on décèle assez peu, finalement, où commence la ville et où finit la campagne. Le deuxième élément qu'on peut voir à partir de cet extrait d'une carte, c'est la diversité de la végétation qu'on trouve dans les villes. Vous le voyez, alors le problème c'est comment parler tout en montrant les choses. On peut voir par exemple la pépinière du jardin du Luxembourg et des plantations très artificielles, très, très normées. On devine au nord-ouest des jardins privatifs. Il y a aussi des espaces probablement plus sauvages, enfin, en tout cas des friches. Tout au sud, ce sont des éléments des plantations et des cultures. Donc on a toute une nature, et on ne voit pas non plus, évidemment, il y a des marchés, il y a des résidus végétaux aussi, probablement de ci, de là. Bref, une nature très, très diverse, et qui varie aussi, bien entendu, selon les saisons. Cette nature, et le type de nature végétale qu'on trouve dans les villes, va résulter de différentes dynamiques. La première est une dynamique qui est propre à la ville, et particulièrement aux villes depuis le 19e siècle. Alors, je tiens à préciser que ce sont des généralités, bien sûr, qu'il y a des variations très, très, très fortes entre les différents types de villes, qu'on parle de Paris ou de villes provinciales ou de grandes villes ou de petites villes. Donc, les choses sont très diverses, mais il y a quelques évolutions générales, disons, qu'on peut peut-être faire émerger. La première est la dilution justement de la frontière urbaine par l'abandon des fortifications et du fait de l'accroissement démographique, et qui fait que les villes s'étendent, notamment à travers la banlieue, et donc effacent encore une fois des limitations parfois très strictes qui existaient auparavant entre leur entourage ruraux et le centre de la ville proprement dit. Un accroissement démographique qui est réel sur la période qui nous occupe et qui entraîne un accroissement des villes et de la taille des villes. Je vous ai mis quelques chiffres ici. En 1800, on compte 5 millions d'urbains en France. En 1931, lorsque la France devient majoritairement urbaine, on passe à 21 millions. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on était à 48 millions d'urbains, soit 75% de la population française. Cette augmentation démographique entraîne un étalement urbain, à part notamment donc les banlieues, qui s'est accrue par des formes nouvelles d'urbanité, au XXe siècle notamment, j'en parlerai tout à l'heure, autour notamment des grands ensembles et des pavillons et des lotissements, hein, qui là encore entraînent une transformation de la ville et une transformation du type de nature qu'on va trouver dans les villes. Je vous cite ici un exemple que j'ai trouvé assez frappant, le fait qu'entre 1970 et 2000, la superficie moyenne des villes a augmenté de 50%. Donc on parle beaucoup d'artificialisation des sols, on en a ici une trace, hein, tout à fait nette. Alors, encore une fois, sur ce socle commun d'évolution très générale des villes en France depuis 2 siècles, il faut prendre en compte non seulement la non-linéarité de ces processus, il y a bien sûr des villes qui augmentent, qui diminuent, qui réaugmentent ensuite en surface, et que bien sûr le type de végétation qu'on va trouver varie aussi en fonction de cela, mais aussi donc la grande diversité de ces évolutions selon les types de villes. Une deuxième dynamique à prendre en compte pour essayer de comprendre le type de nature végétale qu'on trouve dans les milieux urbains, c'est la dynamique écologique elle-même, celle des végétaux, qui ne se laisse pas toujours, loin de là, contraindre par les pouvoirs municipaux. Et c'est pourquoi vraiment je tiens à préciser à quel point la journée d'étude d'aujourd'hui me paraît intéressante, essentielle, parce que s'intéresser justement sur les savoirs naturalistes et sur ces dynamiques végétales et comment elles sont perçues est vraiment un élément très important et sur lequel on a encore très peu d'éléments finalement. Un exemple de ces dynamiques peut être donné par le travail fait par Paul Jauvet et Bernadette Lizet en 1988, qui ont étudié les herbes folles du Jardin des Plantes, en étudiant volontairement un espace très contrôlé, le Jardin des Plantes, et en même temps très divers végétalement, pour repérer justement les herbes non voulues qui s'immisçaient parfois, malgré le travail très intense des jardiniers, dans les recoins du jardin. Et qui montre donc cette dynamique qui échappe au contrôle, alors ici des autorités du Jardin des Plantes, mais plus généralement, bien sûr, à la volonté parfois des urbanisateurs et des paysagistes. Sans parler bien sûr des friches et des délaissés, encore nombreux sur notre période, où peuvent croître tout type de plantes et d'herbes folles, là encore, qui témoignent d'une dynamique propre. Le troisième élément à prendre en compte, je crois, excusez-moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait suivre le PowerPoint. Voilà. Le troisième élément à prendre en compte pour comprendre le type de nature qu'on trouve dans les villes sur les deux siècles qui nous concernent, c'est le fait que à partir du Second Empire particulièrement, la nature devient un élément explicite de la politique publique, ce qu'elle n'était pas auparavant de manière aussi revendiquée et voulue. Et donc par là même, il y a une volonté des autorités nationales et municipales d'utiliser la nature et de la concevoir comme un élément justement de leur politique urbaine. D'où ce jeu de mots que nous avons utilisé à plusieurs reprises, Emiliane Pépi et moi-même, dans l'ouvrage, mais qui est plus qu'un simple jeu de mots, je crois vraiment, c'est que s'intéresser à la nature dans la ville, c'est s'intéresser à la nature de la ville, et inversement bien sûr. Et qu'il y a un lien très étroit, je crois, entre les deux, qu'encore une fois, on n'est pas simplement sur le jeu de mots facile, mais sur un élément essentiel, comprendre comment on voit la ville, ou comprendre comment on voit la nature en ville, c'est comprendre la ville. Il y a un lien très étroit entre les deux, ce que je vais essayer de vous montrer en partie à l'occasion donc de cette introduction. La première chose donc à prendre en compte, ce sont ces politiques urbaines du végétal au XIXe siècle. Et tout d'abord, le fait que le végétal est conçu comme un outil d'urbanisme. C'est la traduction de ce que je vous disais auparavant, et qui résulte, je crois, de deux principes qui encadrent la façon dont on comprend les villes. Bien avant le XIXe siècle, la ville est considérée comme le lieu de l'antinature, de l'artifice. Et c'est probablement une des caractéristiques des villes occidentales, justement, pas seulement françaises, bien sûr. Le végétal y a sa place, mais c'est un végétal qui doit être ordonnancé, organisé, voulu. Et c'est un élément du mobilier urbain. C'est le bac de fleurs, c'est l'arbre de plantation, qui est à la fois donc un élément du mobilier urbain ou une part de la structure urbaine, lorsqu'on pense au parc ou au jardin. Et ça, c'est un élément, je crois, très fort à prendre en compte pour analyser justement la façon dont la ville est perçue et dont la nature est traitée dans la ville. Le deuxième élément, qui lui est beaucoup plus propre au XIXe siècle et qui surgit à l'occasion de la révolution industrielle, de l'expansion urbaine inouïe dont j'ai parlé auparavant, est le fait que la ville est considérée comme un problème et que cette artificialité même devient en soi problématique. La pollution qui affecte les corps des citadins, qui sont éreintés par le fracas des villes, l'absence de beauté aussi, les attraits néfastes des lieux de perdition, dont on craint qu'ils ruinent le moral et le physique des ouvriers. Tout cela fait que la ville est conçue comme un condensé de maux qui font craindre le pire, hein, notamment quand on pense au Paris du 19e siècle, mais aussi à l'East End de Londres. Et dans ces conditions-là, le végétal, et les éléments naturels en général d'ailleurs, sont conçus comme un remède. Il faut offrir au corps et aux âmes, les deux, des éléments de nature qui permettent de les soigner, d'adoucir les mœurs, de civiliser les sauvages qui se créent au cœur même de la civilisation urbaine. Et dans ce cadre-là, les pouvoirs publics, bien sûr, ont une responsabilité, et c'est pourquoi ils agissent, et c'est le sens, justement, de ces politiques végétales qui se mettent en place à partir du Second Empire. Et ils voient, et les pouvoirs publics, ils voient aussi une source de leur légitimité. C'est aussi parce qu'ils agissent sur le végétal dans cette optique-là qu'ils trouvent une légitimité à leur action. Donc, le végétal devient donc cet outil de l'urbanisme, et il n'a dans ce cadre-là pas d'existence propre. Qu'on installe un marronnier ou un olivier, une flore locale ou exogène, peu importe, du moment qu'elle agit donc dans cette optique de civilisation. Et on pense à ce moment-là très peu le milieu dans lequel on installe les plantes. Il n'y a pas de pensée systématique des conditions de l'écosystème, en fait, des plantes qu'on installe dans la ville. Le végétal est, dans ce sens-là, relativement dénaturalisé. D'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que l'écologie naissante, dans le dernier tiers du XIXe siècle, on en parlait il y a un instant, s'occupe des milieux naturels, entre beaucoup de guillemets, et s'intéresse très peu, finalement, à la ville, lieu de l'artifice, justement, et de la culture, et donc pas un lieu qu'on peut considérer en tant que tel comme un espace d'écosystème. Alors, bien sûr, on se pose quand même quelques questions, un petit peu, notamment sur les périssements d'arbres. Au bois de Boulogne, par exemple, les deux tiers des résineux qui ont été plantés par Alphand dans les années 50 périssent, donc on s'interroge quand même sur ces raisons. On s'inquiète de du dépérissement des arbres dans la ville à cause des fuites de gaz dans le sol. Et je vous montre deux dessins qu'on trouve dans les promenades de Paris d'Alphand, où on voit quand même cet aspect très... Enfin, la façon très artificielle dont on conçoit le végétal. Hein, il y a ici un arbre qui est à côté d'un réverbère, peu importe finalement le substrat sur lequel il est planté. Voilà un détail qui montre justement donc, les conduites d'eau, les conduites de gaz, hein, qui sont donc très proches des arbres, qui fuient et qui donc parfois font dépérir les arbres eux-mêmes. On réfléchit parfois un petit peu aussi aux essences de plantes ou d'arbres qui peuvent vivre le mieux dans des conditions atmosphériques parfois difficiles des villes, comme les géraniums, par exemple. Mais, encore une fois, il n'y a pas une pensée véritablement systémique de la plante dans son milieu. L'un des symboles de cela, c'est sans doute le transport des plantes qui circulent dans la ville. Et notamment donc, ces arbres qu'on transporte pour des plantations. J'ai trouvé voilà un exemple donc, d'un arbre transporté pour être planté au bois de Boulogne au tout début du XXe siècle et que j'ai mis en regard de cette citation de l'homme politique et scientifique Ferdinand de Lastéry dans les travaux de Paris en 1861. J'aime beaucoup cette citation. Voilà ce qu'il nous dit. « On vous plante alors qu'il est un marronnier de 50 pieds de haut sans plus de gêne que s'il s'agissait d'un rosier du Bengale. C'est un peu plus cher, voilà tout. Mais quant à la pratique, c'est devenu une opération courante. » Vous êtes en visite chez un de vos amis, modestement logé au troisième étage. Tout à coup, vous voyez passer un arbre devant la fenêtre. C'est quelque glorieux débris d'un ancien boulevard rasé qui s'en va peupler une avenue nouvelle. Que voulez-vous ? On bouleverse tellement Paris que les arbres en sont réduits à déménager. Alors, ce déménagement, qui est celui de la végétation dans les villes du XIXe siècle notamment, amène à transporter finalement des végétaux de toutes sortes et contribue au foisonnement végétal extraordinaire que l'on trouve, ou que l'on pourrait trouver en tout cas, dans les villes du XIXe siècle notamment. Alors c'est un foisonnement qui remonte au moins au XVIIe siècle, hein, il n'est pas propre au XIXe. C'est alors qu'on voit se développer là encore une politique assez générale de collecte et d'enrichissement des collections royales. Je pars sous le couvert d'Yves-Marie Alain, qui est ici, je crois, et qui connaît mieux la question que moi. Mais des jardins de marine sont installés dans les principaux ports français, notamment à Brest, à Rochefort, qui est développé autour de cela, à Toulon, à Marseille, pour acclimater les végétaux, donc venus d'ailleurs, et leur offrir une étape avant leur destination finale dans des villes et notamment dans des jardins botaniques français. Cette politique est développée au XVIIIe siècle à l'occasion des conquêtes impériales et par la création notamment de jardins reposoirs qui sont insérés dans un réseau qui couvre alors donc, le monde entier puisqu'il il est en lien donc, avec les jardins botaniques dans les colonies et puis avec les jardins botaniques situés sur le territoire français. Et ces jardins reposoirs donc, sont censés permettre aux végétaux qu'on fait, soit qu'on exporte dans les colonies, soit qu'on fait venir des colonies, d'attendre en quelque sorte de s'acclimater avant d'être transportés à nouveau jusqu'à leur destination finale. Cette mise en place de ce réseau nécessite des pratiques qu'il faut apprendre pour transporter justement ces végétaux. L'un des premiers manuels sur la question est celui d'Henri Duhamel de Monceau, son avis pour le transport par mer des arbres, des plantes vivaces, des semences et diverses autres curiosités d'histoire naturelle qu'il publie en 1752. Et on va même jusqu'à créer une école en 1819 au Muséum national d'histoire naturelle pour former les naturalistes à la récolte et au voyage des plantes et des graines. Donc il y a encore une fois, toute une politique mise en place pour contribuer à ce foisonnement végétal de la métropole, à des fins donc, d'acclimatation des plantes, des animaux aussi, pour développer l'agriculture, pour développer l'industrie de la métropole. Et donc, bien sûr, on réfléchit à l'utilité de ces plantes, et particulièrement, là encore, à partir du Second Empire. C'est en 1860 qu'est créé le jardin d'acclimatation, par exemple. Pour autant, l'usage de ces plantes exotiques dans des jardins urbains est probablement plus précoce, qu'il s'agisse de jardins botaniques donc, ou de quelques particuliers fortunés qui peuvent acheter justement certains de ces végétaux qui arrivent avant que cette nature végétale se retrouve dans les parcs et dans les jardins urbains, voire dans quelques rues par des plantations. Donc on a une formidable diversité végétale dont je vous donnerai juste quelques exemples. De retour de son expédition en Amérique avec Alexandre von Humboldt, Aimé Bonpland envoie au Jardin des Plantes de Paris une centaine d'espèces d'orchidées, de fuchsia, une cinquante espèces de passiflore, par exemple, qui ensuite peuvent être revendues ou réutilisées dans d'autres endroits. Le jardin botanique de Rochefort, dont je parlais avant, qui est créé au XVIIIe siècle, se retrouve en 1837, donc sur une organisation bien différente que celle que je vous présente ici, se retrouve donc en 1837 à comporter, d'après des témoignages de l'époque, près de 4000 plantes, parmi lesquelles un figuier d'Inde, des dattiers, un papyrus égyptien, des passiflores, et en tout près de 1500 végétaux exotiques. Cette richesse végétale, il faut quand même, je pense, qu'on prenne conscience, encore une fois, de ce changement qu'elle apporte par rapport au monde végétal qui entourait les Français du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. On peut parler donc de ville-monde pour des villes comme Paris, puisqu'elles recèlent donc en leur sein cette diversité végétale qui témoigne de ce contrôle, bien entendu, sur les différents territoires dans le monde. On maîtrise le globe par l'usage des végétaux et par cette richesse qui est mise en avant et qui est exposée vraiment et mise en scène. Ça se voit donc dans des jardins publics, à l'occasion d'expositions universelles, comme celle de Paris ici en 1900. On a du mal à avoir des données sur les jardins privatifs, justement sur le type de végétaux qu'on trouve dans les jardins privés et sur la pénétration de ce foisonnement végétal dans ces jardins. On peut supposer qu'elle est de plus en plus accessible, qu'elle pénètre les jardins privés. En tout cas, il y a peu de limites, ça c'est très clair, à l'imagination du jardinier paysagiste. Ils avaient beaucoup de chance, en fait, puisque les serres, les engrais, les remplacements réguliers de plantes affranchissent finalement de bien des contraintes environnementales dans les choix décoratifs qui sont opérés. Alors, je vous ai montré ici justement ce jardin japonais de l'exposition universelle de 1900 qui suggère cette reconstruction de biotopes presque, en tout cas de jardins étrangers. On retrouve des choses semblables dans cette diversité végétale, par exemple dans le jardin de Coutances, un jardin public qui est ouvert en 1855. et qui foisonne d'espèces halogènes comme un tulipier de Virginie, un magnolia, un araucaria, un cèdre du Liban, même si le cèdre du Liban, ça commençait à se répandre, un ginkgo, un séquoia, etc. Donc on a vraiment, encore une fois, une diversité très importante qui se retrouve même, d'après quelques témoignages, dans les jardins des Champs-Élysées. En 1861, un témoin de l'époque évoque un véritable musée de végétaux vivants. Ce qui est intéressant d'ailleurs, l'expression musée, parce qu'il y a une dimension patrimoniale ici qui émerge. Vous l'aurez compris, on a donc des politiques de végétalisation qui considèrent la plante essentiellement comme un objet en prêtant finalement peu d'attention à sa naturalité. Les éléments végétaux sont déplaçables, interchangeables, un outil et un décor de la ville. C'est dans ce contexte qu'émerge un intérêt nouveau, je crois, pour les flores urbaines. Cet intérêt, il se manifeste donc probablement, alors là encore, je parle sous le couvert des spécialistes, des naturalistes ici, mais il me semble que cet intérêt se manifeste surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Auparavant, on avait des flores, bien sûr, régionales ou nationales, des flores des environs des villes, et c'est à partir de cette moitié du XIXe siècle que les flores des environs des villes commencent à devenir des flores des villes, ou en tout cas à s'intéresser à certaines plantes qui poussent dans la ville proprement dite. Et c'est probablement dû à cette question, encore une fois, la porosité des frontières que j'évoquais auparavant, hein, où les environs des villes sont finalement un concept assez flou qui pénètre bien sûr parfois dans la ville elle-même. Quelques exemples de cela. La flore des environs de Paris, dans sa deuxième édition de 1861, donc d'Ernest Cosson et de Germain de Saint-Pierre, qui donne quelques indications proprement parisiennes sur la présence, par exemple, d'arabettes blanches sur les murs du jardin du Luxembourg. De la même manière, Frédéric Kirchleger, un professeur de Strasbourg, dans sa flore d'Alsace de 1862, dresse un tableau précis des plantes qui poussent sur les vieilles églises, sur des bâtiments en ruines, sur des murs de fortifications. Par exemple, il note la présence d'une germandrée petit chêne sur les murs des fortifications de la ville. Et il note par exemple que 50 espèces de plantes se seraient nichées entre les pierres du pont au chat, 85 dans la cour du palais impérial en 1855, parce qu'il avait été laissé en friche depuis 2 ans. Donc il y a cet intérêt nouveau et manifesté dans les flores pour ces plantes poussant dans la ville. Amédée de Fontvert, dans une très mal nommée flore d'Aix-en-Provence de 1882, parce qu'elle porte en fait sur les environs de la ville et pas du tout sur la ville elle-même, mais malgré tout, évoque quand même quelques spécimens urbains qu'on trouve dans les cours pavés, par exemple, de certaines rues et certaines rues isolées. Il faut pourtant, je crois, attendre Pascal Jourdan pour avoir la première flore essentiellement urbaine. Elle n'est pas encore exclusivement urbaine, mais essentiellement urbaine. C'est un ingénieur civil, et c'est intéressant que ce sont bien sûr souvent des amateurs hein, qui publient ces flores, qui publient donc en 1872 sa flore de Vichy, au moment où la ville de Vichy est en plein développement urbain, du fait de l'essor thermal. Il avait publié déjà en 1865 une flore murale d'Alger, et une autre de Tlemcen en 1866. Donc très clairement, cette flore de Vichy s'inscrit dans un intérêt constant chez lui pour les flores urbaines. Et voici l'objectif qu'il se donne, son programme. Je vous le cite. À l'œuvre donc, il est temps d'explorer avec ordre et méthode, et de la manière la plus consciencieuse, les parcs, les jardins, les rochers des Célestins, les bords de l'Allier et du Sichon, l'écorce des arbres, les vieilles ruines, les boulevards, les avenues thermales, les chemins, les bornes fontaines, les sources minérales et thermales, les galeries souterraines de l'établissement thermal, les monuments, les murs, les toitures, les plâtras des démolitions, les bois pourris, les rues, les joints des pavés, etc. En un mot, le tout du vieux et du nouveau Vichy. Il est intéressant donc de noter encore une fois que cette étude se fasse au moment où la ville est transformée par l'urbanisme et par l'arrivée plus massive de tourisme. C'est les bouleversements de la ville qui motivent sans doute en partie cet intérêt urbain. Il faut pourtant attendre Joseph Vallot dans son essai sur la flore du pavé de Paris pour avoir une première flore exclusivement urbaine. en 1884. Voici la couverture et le titre intéressant. Donc, Flore du pavé de Paris limitée au boulevard extérieur, ou catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les rues et sur les quais, suivi d'une florule des ruines du Conseil d'État. Ah non, je vous le remets peut-être, je vais passer un peu vite. Donc, ce riche alpiniste et botaniste est fasciné par les plantes, là encore, qui croissent dans un Paris bouleversé par les incendies de la Commune en 1871. Son intérêt sur le Conseil d'État porte justement sur un espace urbain qui a été détruit, qui est en ruine, et sur lequel, du coup, peut pousser une flore nouvelle, ou en tout cas, sans doute, le souhaite-t-il ou s'interroge-t-il. Alors, il y a beaucoup de travail encore à faire sur l'histoire de ces flores urbaines, assez peu de travaux qui existent d'ailleurs actuellement. J'avais rencontré une doctorante israélienne qui s'appelle Galit Samuel, qui travaillait sur Jourdan, sur Valo, etc., dont je n'ai plus du tout de nouvelles et que je ne retrouve plus. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont éventuellement en contact avec elle, mais ce serait intéressant en tout cas de savoir si elle continue son travail, parce qu'elle s'intéressait spécifiquement à cette question. Ce qui est clair, c'est qu'au début du XXe siècle, on voit se multiplier ces flores urbaines. Je vous en cite quelques exemples ici. Un article très très court, de quelques pages, sur la flore des rues d'Amiens en 1904, de Virgile Brandicourt. Une petite histoire et flore des rues d'Aix-en-Provence, et cette fois c'est vraiment les rues d'Aix-en-Provence, pour de vrai, pas seulement son entourage, en 1920 par Émile Lèbre. Là encore, quelques pages sur la flore de Portrieux en 1920. Et puis, bien sûr, cela se poursuit, notamment avec les fameux travaux de Paul Jouvet sur la flore des lignes du métro parisien en 1945. C'est des articles connus sur ces plantes qui ont poussé pendant l'occupation, alors que certaines lignes du métro étaient inutilisées. Il y a deux enseignements, je crois, qu'on peut tirer de ces flores urbaines et de leur émergence. La première, c'est que donc c'est au moment où le tissu urbain est transformé par des travaux, ou quand les usages de la ville et de ses infrastructures changent, donc au moment où le sens donné à la ville est modifié, que l'on s'interroge sur la place de la nature dans cette ville. Donc je reprends cette idée du lien entre nature de la ville et nature en ville. Et le deuxième élément, et ça c'est plus une question, il semblerait que c'est la liberté retrouvée du végétal en ville qui est du coup qui interroge et qui intéresse, et peut-être dans l'idée qu'on retrouverait à cette occasion une sorte d'état primitif de l'environnement, non modifié par l'artifice et par les hommes, et où l'interstice offrirait ici comme une fenêtre vers plus de naturalité, plus de spontanéité. Et l'interstice, la friche, provoquée par ces changements dans la ville, serait en quelque sorte un remède à l'artifice urbain. Ce qui est clair, c'est que certains de ces auteurs, et notamment Valo, s'inquiètent de pratiques nouvelles qui détruisent ces plantes interstitielles, qui détruisent cette nature spontanée qu'on retrouverait. Valo, notamment, regrette l'usage du bitume dans les rues. Je vous le cite là encore, dans son introduction à sa Flore du pavé de Paris. « Depuis le commencement du siècle, Paris a bien changé de face. On n'y trouverait pas un coin qui ne soit pavé, bitumé ou macadamisé. Une armée d'ouvriers munis de lances d'arrosage et de balayeuses mécaniques exécute un nettoyage journalier des rues. Et si quelques petites plantes se risquent à pousser entre deux pavés, des préposés soucieux de la propreté des voies s'empressent de l'arracher à l'aide d'instruments spéciaux. Les berges des quais même n'échappent pas à ce système régulier de curage. » Alors, c'est la seule, c'est une plainte très, très nette de l'usage, alors ici surtout du bitume, et donc de pratiques de gestion des espaces publics qu'il regrette. Et là encore, il y a très peu d'études sur cette question de la gestion des mauvaises herbes, pardonnez-moi l'expression inappropriée, dans le milieu urbain entre 1850 et 1950. J'ai trouvé très peu d'études historiques qui traiteraient justement de cette présence du bitume, d'éventuels herbicides, comme celui-ci, l'herbicide Eureka, qui détruit les mauvaises herbes jusque dans les cours pavés. J'ai regardé un petit peu des archives à Bordeaux, à Paris, alors, il y a quelques temps, donc il faudrait que je m'y replonge. Mais là encore, il y avait très peu d'éléments en fait, sur ces questions-là. La seule chose, effectivement, c'était de voir que c'était le bitume qui était souvent incriminé dans ses conséquences sur les végétaux. J'ai trouvé, par exemple, quelques plaintes avant la Première Guerre mondiale sur les effets des poussières de bitume sur les fleurs et les jardins, sur les fleurs des jardins et sur les arbres. Mais bon, encore une fois, ce sont des choses très éparses et des éléments qui permettraient de réfléchir à la gestion des herbes dans les espaces publics de la ville reste très difficile à trouver. Or, pardon, je voudrais rester encore là. Il me semble qu'il y a une hypothèse à faire, que je n'ai donc pas encore pu valider, mais qui serait à poursuivre, sur un lien à faire entre le contrôle accru de l'espace social urbain à partir du Second Empire et le contrôle accru de l'espace végétal environnemental de la ville. La lutte contre les sauvages sociaux, la méfiance qu'on a envers ces populations qui risqueraient de troubler l'ordre public et qu'on essaye justement de civiliser par le développement de la nature en ville contrôlée par les parcs, les squares, les jardins, se ferait en parallèle donc d'un traitement plus strict, disons, des mauvaises herbes dans la ville ou en tout cas d'un contrôle accru de l'espace public pour que tout élément sauvage, encore une fois, ou de nature incontrôlée disparaisse. Alors c'est vraiment une hypothèse que j'aimerais tester. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, je n'ai pas encore trouvé tout à fait les sources qui permettraient de le faire, mais je crois qu'il y a peut-être là un élément de compréhension au type de nature qu'on trouve dans la ville dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Un troisième et dernier moment, parce que je vois que le temps passe et je voudrais laisser du temps aux questions, couvrirait, disons, les deux premiers tiers du XXe siècle, donc dans le type de nature qu'on peut trouver, pardon, et qui manifesterait un certain appauvrissement végétal des villes, et qui serait un appauvrissement paradoxal, alors que les possibilités de diversification sont toujours plus grandes. La première raison de cet appauvrissement tiendrait, je crois, à l'indifférenciation du végétal qui atteint son comble avec la notion d'espace vert ou d'espace libre au départ qui devient espace vert. C'est une notion qui émerge progressivement dans l'entre-deux-guerres, qui s'impose après 1945 et qui résulte assez logiquement de la politique menée au XIXe siècle. Si le jardin ou le parc vise avant tout à régénérer physiquement et moralement les populations citadines, la verdure suffit. Comme ce sont des populations dont on estime qu'elles ne sont pas très, qu'elles n'ont pas un goût très élaboré, finalement tout espace de verdure, même s'il est esthétiquement pauvre, peut suffire à les soigner et les adoucir. C'est particulièrement vrai lorsqu'au tournant du XXe siècle, on insiste sur les risques de dégénérescence physique et sur donc le rôle de régénérescence de ces espaces par la pratique sportive. À ce moment-là, pour jouer, pour courir, pour jouer au football, pour faire de l'athlétisme, on n'a pas besoin d'un beau jardin, un espace vert, de la pelouse suffisent. Au début du XXe siècle, on réfléchit par ailleurs de plus en plus à l'aménagement rationnel des villes, ce qui aboutit à la loi Cornudet du 14 mars 1919, qui est la première à imposer aux villes de plus de 10 000 habitants d'établir un plan d'aménagement. Alors plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, hein, qui nécessite de penser la place des espaces libres dans le tissu urbain. Alors, en faisant un très grand saut chronologique que vous me pardonnerez, j'espère, on trouve le complément, disons, de cette loi par la circulaire du 8 février 1973 de Robert Poujade, alors ministre de l'Environnement, premier ministre de l'Environnement, qui adresse au préfet un texte entièrement consacré aux espaces verts, et qui popularise du coup cette notion et qui fixe un objectif de 10 mètres carrés d'espace vert urbain par habitant. Donc 10 mètres carrés par habitant, 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, qui est porté à 25 mètres carrés pour les week-ends, lorsqu'on tient en compte les forêts urbaines et les espaces périurbains. Donc là, la dimension purement quantitative est actée, et au détriment donc de la dimension plus qualitative. Alors, bon, j'avais mis ces deux plans de Paris que j'ai tirés d'un article très intéressant de l'Atelier parisien d'urbanisme qui établit des cartes sur l'évolution de la nature en ville depuis 1730. C'est donc avec ces cartes qui montrent notamment qu'il y a bien une présence accrue de la nature, en tout cas à Paris, mais notamment autour des espaces de loisirs qui sont les espaces les plus en vert clair, et dont on voit effectivement qu'ils s'étendent dans certains espaces sur cette période d'un peu plus d'un siècle. Cette indifférenciation du végétal s'explique aussi par le type de transformation de l'espace urbain, et notamment autour de deux grands phénomènes de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui sont les grands ensembles et la marée pavillonnaire. Alors, je vais encore une fois passer rapidement pour finir dans 5 minutes à peu près. Les grands ensembles donc, qui se multiplient hein, dans les années 50, 60 et au début des années 70, sont souvent accompagnés d'une grande part de végétation. 40% de leur surface est dédiée aux espaces verts. Au moment où on construit donc 6 millions de logements dans ces années 1953-1973. Alors, j'ai été très, très critique sur ces espaces verts, souvent indifférenciés, souvent mal entretenus. Je nuance un petit peu cette affirmation par notamment un article, là encore très, très bon, de Bernadette Blanchot-Caillot, qui distingue plusieurs phases dans les pratiques paysagistes des grands ensembles et qui réhabilite certains de ces espaces. Mais elle montre malgré tout que lorsqu'on a construit ces grands ensembles, les paysagistes arrivaient en fait tout à la fin. Ils n'étaient pas du tout consultés dans la création de ces grands ensembles et il fallait finalement qu'ils fassent avec ce qu'on leur laissait, ce qui laissait bien sûr peu de place à une conception plus générale et esthétique de ces espaces. Et puis bon, je me suis amusé, vous me pardonnerez, j'ai un peu forcé le trait en choisissant cette photographie du Blanc-Ménil dans les années 60, qui donc est une caricature bien sûr de ce que peut devenir un espace vert mal entretenu, mal conçu, mais on voit ces arbres chétifs, cette pelouse dévastée, qui suggère que s'il y a peut-être 40% d'espace vert, il y a effectivement une absence parfois de réflexion qualitative et esthétique sur ces espaces et qu'ils apportent finalement peu aux populations qui vivent dans ces endroits-là. Le deuxième phénomène est celui de la marée pavillonnaire qui entraîne une baisse de la densité urbaine, hein, du fait de cet étalement. La densité urbaine a baissé d'un tiers depuis 1962. Là aussi, c'est un chiffre que je trouve assez frappant. Et cet étalement urbain se fait donc au bénéfice des espaces privatifs, d'espaces verts privatifs, ce qui est une inversion par rapport au Second Empire. Sous le Second Empire, c'était plutôt, on avait un accroissement de la végétation en ville par les espaces publics, les parcs, les squares, au détriment souvent des espaces privatifs. Là, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les espaces privatifs qui dominent. 3 Français sur 4 déclarent avoir... Pardon. Aujourd'hui, déclarent avoir accès à un espace de jardinage. Et on estime que les jardins pavillonnaires recouvrent 2% de la surface du territoire français. 2% de la surface du territoire français qui serait recouvert par des jardins pavillonnaires. Alors, un exemple de cela, j'ai comparé hein, les cartes, vous savez, avec l'hygiène remontée le temps, ce qui est toujours très, très amusant. On peut voir des évolutions urbaines très nettes. Et ici, vous voyez la ville de Saint-Cyr sur Loire, qui est en banlieue de Tours et qui est représentative de ce mouvement pavillonnaire. Aujourd'hui, elle comprend à peu près 17 000 habitants, et elle a surtout cru dans les années 50-60. Et on voit notamment au nord-ouest... Et je reviens au micro. Vous voyez donc là où je l'ai montré que alors ce sont surtout des espaces agricoles, mais qui sont grignotés hein, par ces pavillons. Bien sûr, cette périurbanisation et cette marée pavillonnaire entraînent, outre l'artificialisation des sols, une nature spéciale dans la ville, qui est une nature très contrôlée ici et organisée par l'usage massif d'engrais et de produits phytosanitaires. L'usage des produits phytosanitaires a doublé tous les 10 ans entre 1945 et 1985. L'usage des pesticides, pardon, a doublé tous les 10 ans entre 1945 et 1985. D'où ce que Caroline Mollier, je ne sais jamais s'il y a un accent sur la dernière lettre, a appelé le kit végétal, une expression que je trouve très, très juste. Nathalie Blanc a parlé, elle, plutôt de jardin Kleenex. En tout cas, ces espaces verts qui sont, encore une fois, détachés en quelque sorte de leur milieu naturel, à proprement parler déracinés, chosifiés, et qui... s'accompagne d'effets de mode. Encore une fois, on a un choix absolument immense dans la palette végétale, et pourtant, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, son usage est relativement réduit, à la suite justement, encore une fois, d'effets de mode. Le platane, par exemple, au XIXe siècle, a connu un engouement absolument incroyable, ce qui fait qu'en 1980, 60 à 80% des arbres urbains étaient des platanes. De la même manière, aujourd'hui, c'est la mode des oliviers en pot. Petite anecdote, j'étais à Épinal il y a une semaine, qui n'est quand même pas tout à fait un espace propice au développement des oliviers. Et devant une pizzeria, il y avait des oliviers en pot, des oliviers magnifiques au demeurant d'ailleurs. Enfin, vu la taille, c'est des oliviers anciens qui étaient dans des pots complètement rikiki. Et je ne pouvais que plaindre en fait le sort de ces oliviers qui n'allaient sans doute pas s'épanouir beaucoup, ni dans cet espace réduit, ni dans ce climat. Bon. Et quand on avait préparé le livre avec Emiliane Pépi, j'avais rencontré un responsable d'Espace Vert à Nantes qui m'avait dit que parfois on pouvait dater certains ensembles urbains par le type de végétation qu'on y trouvait, justement du fait de ces effets de mode, et notamment la plantation commune de prunus et de cèdres qui était typique, me disait-il, des années 1975-85. Alors pour conclure, et ça nous laissera une petite dizaine de minutes de questions, depuis les années 70-80, les choses ont bien changé, et heureusement, pour différentes raisons. La première, c'est une nouvelle pensée paysagiste qui émerge autour des travaux de paysagistes connus comme Michel Corajou ou Gilles Clément, qui s'intéresse plus du coup à ces aspects esthétiques des jardins et qui réactive en fait une vraie pensée paysagiste. Des nouvelles pratiques de gestion des espaces verts autour du zéro phyto, ou en tout cas d'une gestion plus différenciée des espaces dans la ville. Et puis un nouvel intérêt du public pour la végétation des villes et sa diversité, et qui me paraît intéressante à prendre en compte, notamment dans le cadre du sujet qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'elle témoignerait d'un glissement d'une gestion verticale des espaces verts à une gestion plus horizontale. Alors que depuis justement le 19e siècle, c'était les autorités municipales qui décidaient du type de nature qu'on voulait et qui contrôlaient autant que possible, bien sûr, cette nature. Aujourd'hui, on prêterait une plus attention à une forme d'horizontalité en incluant les citadins dans ces choix, dans cette gestion. On le voit à travers plusieurs exemples, les pratiques subversives nées de la guérilla jardinière, qui naît dans les années 70 à New York et se théorise vraiment au début des années 2000 par les travaux de Richard Reynolds, et qui encourage donc à l'usage de bombes, de bombes à graines, hein, de plantations donc dans les interstices urbains ou sur les trottoirs. Ici, c'était juste le jeu de mots fresh and cheap qui m'avait beaucoup amusé. Donc, puis je voulais vous parler de Bordeaux. Donc voilà. Donc ça, c'est une des branches, hein, de la guérilla jardinière à Bordeaux. On trouve bien sûr des graffitis végétaux, notamment au moment de la COP21. Certains sont un peu plus osés dans leur voilà. Et des actions spectaculaires comme les Parking Days qui existent depuis 2010 et qui concernent 180 villes dans le monde, dont 55 en France, et autour desquelles donc, des citoyens, des artistes, des activistes transforment temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés. Ce qui est une manière, bien sûr, de réaffirmer l'appropriation de l'espace urbain par les citoyens et les citadins, réfléchir à la créativité autour du végétal, etc. Donc, devenez urbaniste, demandez l'impossible. J'aime bien ce slogan. Ces pratiques subversives sont récupérées institutionnellement par des Green ou Green Days qu'on voit à Paris, qui encouragent la plantation dans les interstices par les enfants et les citadins, par des permis de végétaliser aussi qui sont délivrés à Marseille, à Strasbourg, à Paris, à Bordeaux, et qui, là encore, encadrent cette végétalisation de l'espace urbain par les citadins. Et puis le dernier élément qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, par la science participative, qui témoigne là encore une fois de cette horizontalité mise en avant, je crois, dans l'intérêt pour les flores urbaines, à travers des programmes comme Sauvage de ma rue, mis en place en 2011, et inséré dans le programme de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle, et qui encourage donc la connaissance de la flore urbaine par l'action justement des citoyens, le tout encadré bien sûr par le muséum. Voilà, j'espère ne pas avoir... J'étais un tout petit peu trop long, pardonnez-moi, et je vous remercie pour votre attention.
Alors,
Une fois encore, merci à Charles-François Mathis pour cet éclairage sur, je dirais, l'évolution des représentations et des pratiques sur la nature dans les villes. Alors, depuis le 19e siècle, certes, mais j'ai vu que vous nous avez éclairé, là, une fois encore, par rapport à des liens que vous faites avec le 18e siècle, et donc, voilà, et jusqu'à nos jours. Donc, je vais laisser peut-être les personnes qui ont peut-être des questions à adresser à M. Mathis intervenir. Je vous en prie.
Merci beaucoup, c'était vraiment vraiment passionnant, et puis un panorama global, donc c'est très précieux. Une question que je me posais, c'était sur d'éventuelles résistances. Vous présentiez les parcs et la conception depuis le 19e de l'aspect positif pour, soit d'un point de vue hygiéniste, soit d'un point de vue social, donner aux populations des endroits où faire du sport, ou alors encadrer un peu les pratiques, etc. Mais est-ce qu'il y a du côté des populations des résistances en disant finalement une vision moins positive de l'implantation de parcs ou jardins, ou est-ce que c'est toujours vu comme quelque chose d'apprécié par les résidents, par exemple les populations locales?
C'est une très bonne question. Globalement, les populations étaient satisfaites de voir des jardins ou des parcs se mettre en place, particulièrement lorsqu'ils occupaient des terrains auparavant qui étaient des terrains vagues ou d'autres. Bon. Malgré tout, et pardon, le deuxième élément, c'est que cette végétalisation valorisait les quartiers et le foncier. Et donc, les propriétaires, eux, étaient bien sûr, enfin ceux qui en tout cas pouvaient garder, qui n'étaient pas expropriés justement, pouvaient bénéficier, disons, de cette végétalisation. Voyez les prix de leurs appartements, de leurs terrains s'accroître. Donc là encore, eux étaient plutôt satisfaits. Après, c'est vrai que si on prend en tout cas en compte le Paris du Second Empire, par exemple, cette végétalisation s'est faite donc par ces grands travaux qui ont exproprié énormément de personnes et rejeté aux franges de Paris une population plus miséreuse ou moins aisée. Donc, j'ai pas d'exemple et j'ai pas vu de témoignage de résistance vive, mais il est probable que chez ces populations-là, il y avait une certaine rancœur, disons. Mais en revanche, dans l'esprit, en tout cas de Napoléon III, très clairement, il fallait pouvoir offrir à toutes les catégories de population, si humble soit-elle, un accès aussi proche que possible à des espaces verts. Et ce qui est très amusant, c'est j'étais à un congrès la semaine dernière où le président du Conseil général des Hauts-de-Seine s'exprimait et il était très fier, à juste titre, hein, de dire que son département offrait ou voulait offrir un accès à un espace vert à moins de 15 minutes à chaque habitant du département, ce qui rejoint exactement cette politique qu'on avait mise en place.
Alors, peut-être je vais me permettre de rebondir sur la notion de résistance, mais en interrogeant peut-être une éventuelle résistance de la part des botanistes, là, du coup, les botanistes amateurs, en particulier ceux qui pratiquent leur passion au sein des sociétés savantes. Et la posture de ces botanistes et des naturalistes en général est souvent de dire, ben, finalement, la nature qui nous intéresse, c'est tout ce dont l'homme est absent. Alors, on a une spécialiste qui va intervenir tout à l'heure sur la flore de Valo, mais il me semble que Valo lui-même n'était pas tellement apprécié des vrais botanistes, je mets tous les guillemets, en disant que ce n'était pas très sérieux, sachant qu'en même temps, l'arrivée du train dans les villes de plaine rend accessibles les montagnes. Et les botanistes des plaines vont effectivement botaniser dans les Alpes, les Pyrénées, etc., vont chercher la vraie nature là-bas. Alors, je me demandais si effectivement, il n'y avait pas également dans cet essor extrêmement faible des flores des villes dans la deuxième moitié du 19e siècle, si ce n'était pas aussi le reflet d'une forme de résistance, en disant ben, finalement, faire de la botanique en ville, ce n'est pas très sérieux.
Ah, je pense que vous avez tout à fait raison. Oui, c'est la... j'ai cité donc ces quelques botanistes que j'ai trouvés, mais qui restent, c'est très ponctuel et c'est très dur en fait de trouver beaucoup de fleurs des villes, même au début du XXe siècle. Ça reste très marginal et c'est probablement dû à cette considération assez faible accordée à la ville en tant que telle, enfin en tout cas à la botanique en ville. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'on voit parfois chez ces botanistes qui s'intéressent aux fleurs des villes un accent sur, c'est ce que je disais avant, sur ces espaces un peu laissés, ça s'est friche et c'est délaissé, non seulement parce que c'est là qu'on trouve des plantes bien sûr, mais aussi parce que c'est les espaces les plus naturels entre guillemets de la ville et que c'est une manière probablement de justification de leur travail. Mais c'est clair que je pense que ces fleurs n'ont pas du tout la même valeur, disons, qu'une recherche faite, comme vous le dites, dans des espaces jugés plus naturels et plus riches que sont les espaces forestiers, montagnards, etc.
Je pense que ça change un petit peu peut-être à la mi-20e siècle avec Jauvet.
Voilà, Jauvet, je pense, change. C'est clair qu'au moment, oui, je pense qu'avec Jauvet, les choses ont basculé un peu.
Merci infiniment pour cet exposé passionnant. J'ai peut-être aussi un élément de réponse à la question que tu viens de poser, Patrick. C'est aussi parce que la flore dans les villes, elle est relativement banale. Et du coup, on ne peut pas tomber sur une curiosité botanique d'un intérêt exceptionnel. Moi, la question que je me posais, c'est... donc, on comprend bien qu'à travers le temps, on a d'abord une flore très domestiquée, essentiellement horticole, etc. Puis là, plus récemment, on trouve un intérêt aux herbes folles, aux mauvaises herbes, etc. Et maintenant, je crois qu'on se tourne aussi sur une flore qui fasse écosystème et qui soit susceptible de rendre des bénéfices aux citadins. Alors, la conscience, elle est tout à fait prise, je crois, dans le domaine de l'écologie scientifique. Elle n'est pas encore vraiment passée au-delà, mais peut-être que ça va venir, enfin, j'espère. Mais j'en sais rien, en fait. Hein. Je ne sais pas ce que les gens retiennent. Je sais que, par exemple, on ne trouve pas les mêmes citadins dans les parcs très, très gérés, comme le Luxembourg, et puis des parcs avec une dynamique plus libre, comme le Jardin des Halles. Quoique le Jardin des Halles pose d'autres problèmes actuellement, mais voilà. Et donc, ce phénomène écosystème, je crois qu'il est très récent. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas du tout évoqué, mais vous avez tout à fait raison. Dans cet encouragement aussi à la végétalisation actuelle des villes qui est soutenu par les autorités, on fait très attention à mettre en avant des plantes endogènes. On résiste beaucoup, du coup, à cet exotisme qui marquait plutôt le 19e siècle. Et on tient vraiment à utiliser des plantes locales, ne serait-ce qu'en lien avec le dérèglement climatique. Par exemple, à Montpellier, les ronds-points, puisque on a des ronds-points partout maintenant, mais les ronds-points, justement, sont pensés avec des plantes locales qui nécessitent peu d'usage, enfin, peu d'eau. Elles ne font pas forcément écosystème, mais au moins, en tout cas, elles répondent à une certaine logique climatique et de terrain. Donc ça, c'est très clair. C'est vrai aussi pour la végétalisation des toits, par exemple. Dans certains départements, il y a des instructions très claires sur le type de végétaux qu'on peut trouver sur les toits végétalisés et qui, là encore, sont censés être des végétaux qui, là, devraient faire écosystème entre eux, se soutenir les uns les autres en quelque sorte, pour pouvoir nécessiter aussi peu d'entretien que possible et que cette végétalisation fonctionne en fait, qu'elle ne soit pas un pur produit marketing qui dégénère ou qui s'éteint au bout de 2 ans. Donc cette réflexion, effectivement, elle est de plus en plus prégnante et mise en avant, là encore, par les autorités avec évidemment des conseils de scientifiques.
Oui, j'avais une question sur justement cette question endogène, végétation locale ou exotique, et puis sur la dimension symbolique et politique qu'il y avait dans le choix des essences. Pour partir d'une anecdote, il se trouve que la semaine dernière, dans le lycée de mes enfants, on a fait planter un arbre de la liberté en hommage à Samuel Paty. Et donc, ils ont choisi un jingo biloba, en disant c'est un arbre très ancien, c'est un arbre symbole de sérénité, etc. Voilà. Et donc il y a cette tradition de déjà planter des arbres de la liberté en ville, Et puis d'autre part, d'arbres, je pensais par exemple aussi à Washington, tous les cerisiers qui ont été plantés, amenés par le Japon, et de cadeaux diplomatiques où des arbres exotiques viendraient renforcer des liens entre les pays symboliquement, etc. Et je me disais, vous parliez des effets de mode sur les prunus, voilà. Enfin bon, est-ce qu'il y a aussi dans la ville un choix des essences qui serait un choix plus symbolique, en fait, voilà.
Merci pour cette belle question, difficile. Alors, il y a des choix symboliques qui se font ponctuellement, notamment qui se sont faits au moment de la plantation des premiers arbres de la liberté, mais qui posaient beaucoup de problèmes parce que il y avait des tas de débats donc au début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, sur justement le type d'arbre, parce que, bon, évidemment, certains disaient, il nous faut un chêne, parce que ça dure, ça va marquer la durée de la République. D'autres disaient, oui, mais non, un chêne, c'est un arbre royal. Il nous faut, au contraire, un arbre plus populaire. C'est un texte, ça existe. Mais enfin, bon. Donc, et certains mettaient en avant aussi la nécessité de trouver des arbres plus adaptés, là encore, au climat de telle ou telle région. Donc, le problème, c'est que quand on démarre sur ces questions symboliques, chacun a sa propre, chaque groupe social ou chaque individu peut avoir une symbolique différente à accorder à l'arbre, donc, ou à la plante, donc ça peut poser beaucoup de débats. Donc il y a cet exemple qui est célèbre et qui se retrouve donc dans l'exemple que vous donnez de l'arbre dans l'école de vos enfants. Au-delà de cela, encore une fois, là, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais il y a forcément, bien sûr, d'autres plantations plus symboliques, mais elles restent marginales, en quelque sorte, par rapport à la réflexion plus générale. Et le plus souvent, l'usage exotique qui est fait dans l'espace urbain est un usage d'ornementation et de décor. C'est-à-dire qu'on voit justement dans les grands parcs, dans les squares, etc., vraiment, c'est typique justement de cette deuxième moitié du 19e siècle. Vous savez, ces grandes pelouses avec au milieu un arbre exceptionnel, les ginkgos par exemple, qui sont tellement beaux, faut dire, à l'automne, ou un magnifique chêne ou un grand platane, enfin bref. Donc on met en valeur un végétal un peu particulier, un peu exotique justement, mais plus pour des raisons presque de gloriole, je dirais, que pour d'autres raisons symboliques.
Merci.
Une autre question.
Pardon. Non, je vous en prie. Oui, moi, j'aurais plus beaucoup de choses à vous dire, finalement, mais il y a quand même deux mondes que vous n'avez pas cités et qui ont, à mon avis, une importance très importante, au moins au 19e et jusqu'aux trois quarts du 20e siècle. C'est le monde des pépiniéristes et des horticulteurs. Parce que finalement, lorsqu'on regarde la puissance qu'ils avaient et la manière dont ils ont modifié finalement la perception à la fois du végétal indigène et du végétal exogène, je pense qu'ils ont eu une très très forte influence finalement sur la manière dont on a créé les parcs et dont on les a décorés. Et l'autre chose également, le deuxième monde qui est un peu parallèle, c'est celui des directeurs de parcs et jardins d'espace vert, qui quand même avaient tous la même formation. Ils sortaient pratiquement tous à partir de la fin du 19e de l'école de Versailles, et donc avaient finalement une idée, je dirais, assez précise de ce qui devait être fait, et que la modification finalement du système ou de la vision, elle s'est faite très tardivement, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et donc, et finalement, pas forcément sous l'influence de ses directeurs, mais souvent sous l'influence de la population. Enfin, là, je pourrais dire, en parler assez longuement, si vous voulez, mais ce n'est pas le moment. Mais je pense que ces deux grandes professions, finalement, ont eu énormément d'influence, et pas tant le pouvoir politique.
Je vois ce que vous voulez dire, oui.
Mais, ayant été directeur d'espace vert pendant très longtemps, que tout ce qui avait été planté ou ce qui a été planté dans les années entre 70 et 93, qui est la date à laquelle je suis parti de la ville de Lorient, puis après Lorient, je n'ai jamais demandé l'autorisation à qui que ce soit pour le choix des végétaux. Bon. Donc on avait un pouvoir énorme
une responsabilité aussi énorme, en sachant que le monde des botanistes était un monde qui était inconnu de ces deux, je dirais, grandes catégories, qui faisaient un peu la pluie et le beau temps sur les parcs et jardins et la politique espacée.
Je vous remercie beaucoup. C'est plusieurs très très bonnes remarques et avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Juste une précision sur le pouvoir politique. Bien entendu que je ne voulais pas laisser entendre que le pouvoir politique avait un poids sur le choix des variétés, disons, qu'on plantait. Il pouvait donner quelques impulsions, surtout récemment, à propos des choix éventuellement endogènes ou exogènes. Mais mon propos était plutôt de dire sur le type de relation à la nature qu'on avait et le type de contrôle qu'on pouvait avoir sur elle, notamment dans la gestion des mauvaises herbes dans l'espace public. Et concernant l'éducation, là où je vous rejoins pleinement, c'est que sur un autre point, mais je discutais récemment avec un ami sur le... à propos de la formation des agriculteurs. Et il me disait, mais dans les lycées agricoles, etc., on continue à encourager l'usage des engrais, des pesticides, etc. Il y a très, très peu d'enseignements, en fait, qui prennent en compte des choses qu'on commence à connaître quand même depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas évolué, en fait, en même temps que la société et qui, donc, entraînent encore des résistances ou des incompréhensions dans les usages qu'on peut avoir des espaces agricoles. Et donc, c'est la même chose que ce que vous dites là, et vous avez entièrement raison. Et là, il y a aussi des études sans doute à faire sur cet enseignement donné, notamment à Versailles, au directeur d'Espace Vert, qui ont été donnés. Voilà.
Non, je voulais simplement,
lorsqu'en 1982, j'ai mis en place la gestion différenciée à Orléans.
Finalement considéré comme un
anarchiste. Et finalement, les grandes sociétés chimiques, finalement, ont fait une propagande. Alors, il n'y avait pas Internet, donc c'était plus difficile. C'était moins net. Contre, je dirais, la vision que je pouvais avoir du fait qu'on ne pouvait réintroduire justement des essences spontanées, enfin, qui poussaient spontanément dans la ville, et donc à avoir une perception différente d'un même espace en fonction des critères. Et finalement, ça s'est mis en place dans les années pratiquement 2000. Donc il faut quand même bien penser que la révolution finalement mentale, elle est quand même très très récente et qu'on a vécu finalement pratiquement tout le XXe siècle sur la perception qu'on avait de l'espace urbain et de la flore urbaine. C'était celle du 19e.
Tout à fait. C'est vrai que c'est... Alors, vous êtes effectivement un pionnier, parce que c'est dans les années 80, presque, que j'ai pu voir que quelques villes, pas très fréquentes, et notamment de l'Ouest, voilà, oui, se sont lancées dans ces pratiques différenciées. Oui.
Bien, merci encore à M. Matisse, à la fois pour cette conférence et cet échange.